Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler accès au droit et plus particulièrement droit à l'environnement. Ce sera en seconde partie d'émission. Mais d'abord, on découvre ensemble une initiative justement en faveur du développement durable. Elle est portée notamment par Stéphane Fournier, qui est infirmier anesthésiste et porteur de la démarche EcoBloc 86 au CHU de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous présenter un petit peu le bilan de cette démarche. D'abord, peut-être revenir en quelques mots sur ce qu'est EcoBloc 86 et comment cette initiative est née au sein du CHU.
Alors, EcoBloc 86, c'est un groupe de développement durable que nous avons monté avec Claire Duverger, qui est ingénieure en transition écologique sur le CHU de Poitiers en 2019 et qui compte actuellement 86 personnes réparties sur les sites de Poitiers, Châtellerault et Montmorillon. Nous avons travaillé depuis 2019 sur le montage de 8 groupes différents qui travaillent sur différents aspects du développement durable, notamment le recyclage, la valorisation des métaux ou bien encore la gestion des dispositifs médicaux stériles et non stériles.
Alors au départ, vous aviez mené une étude sur les déchets des blocs opératoires. C'est ça qui avait un petit peu été le déclencheur.
Oui, tout à fait. On s'est rendu compte qu'en fait, on avait une quantité de déchets qui est très importante. Il faut savoir que les blocs opératoires en France représentent moins de 5% de la superficie des hôpitaux, mais par contre génèrent plus de 20 à 25% des déchets institutionnels. Et en faisant ce bilan-là, on s'est rendu compte qu'on avait une discordance entre le rapport entre nos DAOM et nos DASRI, et on a donc souhaité travailler là-dessus pour optimiser ce tri.
Alors DAOM et DASRI,
les DAOM sont les déchets assimilables aux ordures ménagers, ce qu'on retrouve chez nous finalement à la maison, et les DASRI, ce sont les déchets d'activité de soins à risque infectieux qui sont propres aux hôpitaux et aux structures générant des soins.
Et pourquoi une telle différence entre l'ensemble de l'activité d'un CHU et celle du bloc opératoire? Pourquoi à cet endroit-là, il y a plus de déchets qu'ailleurs?
Il faut savoir qu'un bloc opératoire ou une intervention chirurgicale génère la quantité de déchets d'une famille de 4 personnes sur une semaine environ. Donc, et il s'agit d'une intervention moyenne. Et lorsque vous êtes un CHU, vous êtes référent régional pour des interventions qui sont plus lourdes ou plus longues. Et cela multiplie les déchets encore.
Et alors, comment vous avez, donc c'est un projet pluridisciplinaire, hein, vous le disiez, comment vous avez réussi à mobiliser toutes ces personnes autour de cette démarche?
Grâce à Claire Duverger qui a permis de structurer ça d'un point de vue direction, on a pu stimuler les personnes à trier et puis surtout c'est un sujet qui est plutôt sensible aujourd'hui, les gens sont plutôt intéressés, donc il était facile de les engager dans cette démarche.
Oui, les praticiens eux-mêmes se disaient que peut-être il y avait un peu trop de déchets. C'est vrai que tout est jetable, en fait, dans une opération. Ouais.
Les années 80-90 ont favorisé le jetable, le plastique et peu le réutilisable. La crise Covid a majoré cette situation. Et donc là, on s'est rendu compte avec les uns et les autres, les professionnels, que ce soit de l'hygiène, les chirurgiens ou les anesthésistes, qu'il fallait qu'on essaye d'œuvrer pour faire quelque chose là-dessus. Et puis, on a travaillé ensemble.
Ce qui est intéressant, c'est que la démarche avait commencé en 2019, mais peut-être le Covid a fait que vous avez convaincu tout le monde.
Le Covid, en fait, la démarche a commencé en 2019. Le Covid a vraiment freiné cette démarche-là. Et quand on a repris la démarche, effectivement, on a réussi à convaincre plus de personnes et de pouvoir l'établir, notamment sur Châtellerault et Montmorillon, qui initialement n'étaient pas concernés par la démarche.
Alors, l'une des premières actions concrètes, c'est celle sur les métaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet aspect-là?
Oui, tout à fait. Simplement, lors de ma pratique, je me suis rendu compte qu'on jetait les métaux dans les DASRI ou les DAOM, encore ces déchets assimilables. Et puis finalement, ça représente un poids très important. Et puis finalement, on s'est dit, on pourrait peut-être les valoriser. On a été rechercher ce qui pouvait se faire ailleurs, finalement, en réalisant un benchmark. On interroge les centres hospitaliers. Et finalement, on a trouvé une structure qui pouvait nous les reprendre et les valoriser différemment. Donc du coup, on les a isolés pour les envoyer vers un organisme qui permet de les refondre et les réutiliser sur autre chose.
Est-ce qu'il y a d'autres? Alors, vous disiez qu'il y a 8 groupes de travail différents. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce que chacun fait, en tout cas les actions concrètes comme celle-ci?
Oui, notamment sur, je vais en parler d'un qui est important, qui s'agit notamment du tri. Donc, il y a eu cette valorisation des métaux, mais aussi un sujet qui est très sensible en France actuellement, c'est celui des plastiques. On a une difficulté finalement pour les revaloriser. On a pu travailler avec la société Plaxtil qui se situe à côté de Châtellerault, donc en local, pour pouvoir revaloriser des plastiques qu'on utilisait au bloc opératoire et qui initialement été jetés dans nos poubelles et enfouis. Et là, c'est ce qui crée de la pollution, bien évidemment. Vous avez également un travail sur les gaz d'anesthésie qu'on a mené avec les anesthésies du CHU de Poitiers, où on a pu réduire notre consommation de gaz anesthésique, notamment du protoxyde d'azote qui pollue et qu'on a arrêté définitivement pour le relier en bouteille, et ce qui nous a évité des fuites et des économies également. Il faut savoir que ces objectifs et ce travail-là a permis de générer plus de 14 000 euros d'économies. La même chose sur les DM stériles, ce qui est dans notre groupe, les dispositifs médicaux stériles. On a optimisé des trousses de chirurgie pour n'utiliser exactement que ce qu'on avait dans nos trousses, alors qu'avant, nous avions des trousses préfaites qui étaient largement utilisées et qui servaient pour plusieurs chirurgies, mais dont les ustensiles n'étaient pas utilisés. Et donc là, on a optimisé ces trousses-là, ce qui nous a permis de générer plus de 50 000 euros d'économies.
Alors, vous disiez des gains économiques, des gains environnementaux, question de pollution dont vous parliez, des gaz anesthésiants. Il y a la question de la diminution de la consommation d'eau aussi.
Oui, tout à fait. On a pu diminuer notre consommation d'eau en mettant des réducteurs de débit au niveau des auges pour se laver les mains. Globalement, cette réduction d'eau, elle rentre dans une politique d'économie d'énergie au sein des blocs opératoires. L'extinction des lumières, la mise en place de lumières automatiques au passage des portes, ou bien encore la réduction des flux dans les salles de blocs opératoires lorsqu'elles sont inutilisées. Il faut savoir qu'une salle de blocs opératoires est utilisée en moyenne 30 à 40% de la journée sur 24 heures. La nuit, les salles qui sont hors urgence ne tournent pas. Et donc, on a pu optimiser ça en réduisant les flux la nuit.
Et alors, une avancée à laquelle on ne pense pas forcément, c'est l'amélioration aussi de la qualité de vie au travail. En quoi ces avancées-là permettent aussi une meilleure qualité de vie au travail ?
Eh ben, en fait, finalement, notamment par rapport aux trousses dont je vous parlais tout à l'heure d'optimisation pour les chirurgies, eh bien, finalement, le fait de moins ouvrir de trousses et puis d'optimiser ça, on a gagné en sécurité du patient, puisque maintenant, par exemple, pour les césariennes, on n'ouvre plus qu'une seule trousse, donc moins de risque d'erreur. Vous avez la complétude du matériel à utiliser en urgence. Ou alors, encore, nous avons pu optimiser ça par l'ouverture et la réduction des troubles musculo-squelettiques chez les infirmières de bloc opératoire qui travaillent avec les chirurgiens.
Vous annoncez 100 000 euros d'économie en un an, c'est assez impressionnant. Ouais. Comment on arrive à ce chiffre-là et à quoi va servir cet argent ?
Eh ben, en fait, on arrive à ce chiffre-là en respectant déjà une certaine réglementation, en optimisant un peu notre tri, en essayant de travailler ensemble et en uniformisant les chirurgies. Par exemple, si deux chirurgiens réalisent la même chirurgie, on peut optimiser en ayant exactement les mêmes dispositifs médicaux à utiliser plutôt que d'avoir une trousse pour le docteur X et l'autre pour le docteur Y. Et tout ça, ça génère énormément d'économies.
Et alors, vous avez parlé de cette initiative à d'autres hôpitaux. Comment ça peut un petit peu essaimer peut-être sur le territoire ?
Ah ben, finalement, maintenant, je fais partie de la Société française d'anesthésie et réanimation, plus particulièrement du groupe de développement durable, donc qui émet des recommandations et qu'on essaye de disséminer un peu dans l'ensemble des hôpitaux en France. Et puis également, on va travailler avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, afin de pouvoir promulguer l'éco-conception des soins et le développement durable au sein des blocs opératoires. Et j'en profite pour dire qu'on sera le 12 juin sur Bordeaux pour porter cette bonne parole auprès des différentes structures de soins.
Et alors, quelles sont les prochaines étapes pour EcoBloc 86 ?
Eh bien, c'est de poursuivre ces trousses, parce qu'en fait, c'est 50 000 euros d'économie qu'on a pu faire. On les a fait que sur 10 trousses de chirurgie. Pour vous dire, 10 trousses de chirurgie, ça représente à peine 10% de ce qu'on peut faire sur le CHU de Poitiers. Donc, on va poursuivre dans cet objectif-là. Et puis, continuer notre tri et nos valorisations au sein des blocs opératoires. Et puis, on va essayer de travailler bientôt avec les prestataires extérieurs, que ce soit les laboratoires, essayer de diminuer notre coût de transport qui représente une part importante de l'empreinte carbone d'un CHU. Et on espère pouvoir continuer cette valorisation.
Donc plein de pistes encore à aborder. Et par rapport aux patients, comment cette démarche est perçue ? Est-ce qu'ils sont au courant ? Est-ce que vous communiquez auprès d'eux ? J'imagine que c'est bien perçu s'ils sont au courant.
Bon, on essaye lors des journées de développement durable de faire de la communication par rapport à ça. C'est vrai que les patients trouvent ça plutôt bien, puisque nous gardons la sécurité pour eux. Ça ne change strictement rien. Et après, on essaie d'être tout à fait transparent pour que le parcours patient soit optimisé et qu'ils ne s'en rendent surtout pas compte.
Merci beaucoup Stéphane Fournier d'être venu nous parler de cette initiative. Donc vous êtes infirmier anesthésiste et porteur de la démarche EcoBloc 86 pour le CHU de Poitiers. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On continue en musique. Elle n'est pas là aujourd'hui, la pluie, mais on va quand même tourner sous la pluie avec Dina.
Les nuages dansent, regarde dehors. Les gouttes qui tombent valent plus que de l'or. Alors vas-y, cours, tourne sous la pluie. Avant que la vie te bouffe, attrape ton parapluie. Tu sais, tout est possible, tu peux devenir qui tu veux. La vraie magie dort chez les ambitieux. C'est beau d'avoir des rêves, il faut pas les lâcher. Pour mon imaginaire, pour éviter de te manquer. N'envie pas les grandes personnes. Derrière leur écran, oui, tu sais, elles sont très seules. Toi, t'as tout à prendre. Cache pas ton temps à attendre. Fonce chez ton poc, sonne à l'interphone. Amuse-toi, fais la course dans le intersport. Toque aux portes et pars en courant. Tu verras, c'est marrant. Plante une tente dans ton jardin et pars à l'aventure. Mets des paillettes sur ton dessin. Efface pas les ratures et n'oublie pas. Profite à fond, on ne vit qu'une fois. Déhanche-toi quand l'orage grand. Les nuages dansent, regarde dehors. Les gouttes qui tombent pas plus que de l'or. Alors vas-y, cours, tourne sous la pluie. Avant que la vie te bouffe, attrape ton parapluie. Les nuages dansent, regarde dehors. Les gouttes qui tombent pas plus que de l'or. Alors vas-y, cours, tourne sous la pluie. Avant que la vie te bouffe, attrape ton parapluie. Parfois tu te sens triste, c'est pas grave. Tu comprendras très vite, oui c'est normal. Mais faut garder le moral. Quand le monstre frappe à ta porte, sors cette peluche que t'adores. Et crie-lui bien stop, c'est moi le plus fort. T'as qu'à t'installer au sous-sol. J'ai encore un conseil pour toi. Tu le comprendras sûrement plus tard. Mais sois toi-même. Tu croiseras des obstacles, ouais. Les nuages dansent, regarde dehors. Les gouttes qui tombent valent plus que de l'or. Alors vas-y, cours, tourne sous la pluie. Avant que la vie pouffe, attrape ton parapluie. Les nuages dansent, regarde dehors. Les gouttes qui tombent valent plus que de l'or. Alors vas-y, cours, tourne sous la pluie. Avant que la vie pouffe, attrape ton parapluie. Tout n'est pas joli, mais s'il fait noir, c'est pour mieux voir les étoiles qui brillent. Tourner sous la pluie, ça reste la meilleure thérapie. Hey, hey, tout n'est pas joli, mais s'il fait noir, c'est pour mieux voir les étoiles qui brillent. Tourner sous la pluie, ça reste la meilleure thérapie.
Une puissance de professionnel, je dirais.
Bizarre.
Ça, c'est bizarre.
Les étoiles en plus.
Cyril Bousseron, président du tribunal judiciaire et du conseil départemental de l'accès au droit de la Vienne, est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour nous présenter cette journée nationale de l'accès au droit qui a lieu donc le 23 mai. C'est une journée qui a lieu chaque année. Quel est l'objectif au départ de cette journée ?
Alors, l'objectif de cette journée à l'origine, c'est de faire connaître les conseils départementaux de l'accès au droit et l'accès au droit, puisque bien que l'accès au droit soit développé depuis plus de 30 ans et financé par le ministère de la Justice, finalement, il y a peu de visibilité aux actions. Et donc le ministère a décidé, il y a désormais 4 ans, de créer cette journée nationale pour permettre de à la fois de coordonner des actions sur toute la France en même temps, mais également effectivement de montrer tout ce qu'on fait au quotidien et aussi une fois par an sur un thème particulier.
Alors ce conseil départemental de l'accès au droit, quel est son rôle, à quoi il sert dans un territoire ?
Alors effectivement, je préfère le dire souvent, il y a une confusion entre le conseil départemental et le conseil départemental de l'accès au droit, donc oui. Nous ne relevons pas du conseil départemental du tout.
Non.
Voilà. Donc c'est une institution, en fait c'est un groupement d'intérêt public qui a été créé à l'origine par le ministère de la Justice, dont le président est le président du tribunal judiciaire, le vice-président est le procureur de la République, et sont membres de droit toutes les institutions en fait, du département, le préfet, le président du conseil départemental, là on en parle, mais aussi tous les organismes de professionnels du droit, comme l'ordre des avocats, les commissaires de justice, mais également les notaires, et aussi par exemple dans ce département France Victimes 86. Son rôle, il est double, il est à la fois de coordonner l'accès aux droits sur un département, donc coordonner ce que font tous les autres acteurs sur le département, et évidemment de donner une appréciation un peu critique parfois sur ce qui est réalisé, puisqu'il y a aussi des subventions qui sont allouées dans ce cadre, et puis également de faire lui-même de l'accès aux droits, c'est ce que nous faisons, soit par le biais de notre juriste coordonnateur, soit en finançant des actions directement, soit même en organisant, nous, des actions. C'est le cas quand on sort des guides, comme on l'a fait là actuellement, mais aussi avec une participation à plein de choses. On reçoit par exemple quasiment 2000 enfants et adolescents dans la juridiction tous les ans, avec une formation aussi avec le personnel de l'éducation nationale, par exemple. Donc une vocation assez large et avec tout un tas d'actions, alors qui peuvent varier suivant les départements, mais... voilà, avec des actions, en tout cas, et d'accès au droit, et de connaissance plus générale du droit.
Et peut-être pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on entend par accès au droit ? C'est assez vaste, en fait.
Oui, alors, c'est vaste, et d'autant plus que la connotation aujourd'hui a un peu varié, puisque la plupart des institutions parlent aujourd'hui d'accès au droit, mais mettent au pluriel le « au » et « droit hein, », au pluriel. Nous, on parle d'accès au droit au singulier, avec un grand D même, on pourrait dire, hein, qui est la connaissance du droit, d'une part, de façon plus générale. Et la deuxième chose, c'est en fait, c'est quasiment, surtout la connaissance du précontentieux. C'est-à-dire qu'on, c'est dans, à l'origine, l'accès au droit a été créé par la loi de 1991, qui est la loi sur l'aide juridictionnelle, hein, qui permettait donc de financer, pour les gens qui n'en ont pas les moyens, l'accès à un professionnel du droit et qui puisse les assister. Et le ministère a vu tout de suite que ça n'était pas suffisant et qu'il faut informer les gens sur leurs droits pour leur permettre justement de les exercer. Hein. C'est un vrai enjeu aujourd'hui puisqu'on a un taux qu'on appelle de non-recours qui est aussi connu dans d'autres institutions, qui est extrêmement important, notamment dans certaines matières. On en parlait l'an dernier lors de la Journée nationale de l'accès au droit sur le droit au logement, où on a presque 50% des gens qui sont convoqués pour une expulsion qui ne viennent pas aux audiences, hein, qui ne viennent pas se défendre. Donc effectivement, un très fort non-recours en ces matières, d'où l'importance d'orienter l'accès au droit sur des matières particulières ou sur des populations particulières, notamment défavorisées. C'est la raison pour laquelle, notamment, on a ce qu'on appelle des points justice spécialisés. On en a par exemple au centre hospitalier Laborie pour les malades hospitalisés et au centre pénitentiaire de Vivonne pour les détenus. Pour ce qui est de l'accès au droit dans les autres matières que leur dossier pénal, par exemple, parce qu'effectivement, quand on est incarcéré, ça a évidemment des conséquences sur la famille, sur le logement, et donc il y a ce travail qui est réalisé.
Et alors, pour cette journée nationale de l'accès au droit, vous avez décidé la thématique du droit de l'environnement. Pourquoi ce thème en particulier ?
Alors, ce thème en particulier, je peux vous dire qu'il a fait l'objet de réflexion, puisque vous connaissez la sensibilité du sujet dans ce département, sur le territoire. Mais en même temps, c'est un sujet à la fois parfaitement d'actualité et puis surtout qui illustre parfaitement la question du droit aujourd'hui. Je m'explique. Hein. Le droit, c'est souvent une confrontation entre des intérêts différents. C'est le cas, par exemple, pour le droit au logement, entre les intérêts et des propriétaires hein, voilà, et les intérêts des locataires. C'est la même chose en matière de droit de l'environnement. Le droit de l'environnement, c'est effectivement le fait de penser à la protection de l'environnement, de privilégier cette protection de l'environnement, mais il se heurte, bien sûr, à bien d'autres droits et libertés. Et on le voit très bien quand on parle, effectivement, de problèmes de pollution, par exemple, on parlait tout à l'heure, hein, de problèmes des métaux, par exemple, là-dessus. On va se heurter à d'autres problématiques, parfois économiques, hein. Et donc, on se retrouve confronté à ces impératifs qui sont parfois un peu contradictoires. C'est très d'actualité, évidemment. Et puis, on s'est aperçu aussi qu'il y a l'autre dimension, bien sûr, c'est la méconnaissance du droit. Le droit est de plus en plus complexe, c'est vrai. Il y a de plus en plus de textes. Hein,
le droit environnemental, peut-être encore plus.
Encore plus, puisqu'il faut... Alors, il y a une double dimension. Il y a une dimension à la fois qui va jusqu'à l'international, puisqu'on va de l'international jusqu'au local en cette matière, avec des choses parfois très différentes et des niveaux de protection très différents. Et puis également, effectivement, c'est un droit très technique qui nécessite un peu d'être un spécialiste. D'où aussi encore plus peut-être d'incompréhension ou de mauvaise compréhension entre les uns et les autres. C'est la raison d'ailleurs qui nous a poussé l'an dernier à travailler avec l'ensemble des, des institutions, associations qui travaillent sur le territoire, pour avoir une réflexion sur cette question. Et c'est justement cette réflexion et ce tour d'horizon avec l'ensemble. Alors, par exemple, on a rencontré à la fois la Ligue de protection des oiseaux, mais aussi les chasseurs, hein, par exemple. Et on s'est aperçu qu'en réalité, tout le monde avait une idée, en dehors de leurs oppositions, tout le monde avait la même idée en disant qu'il fallait être capable d'expliquer et de faire connaître des choses assez basiques, et puis aussi, surtout, de renvoyer bien les gens vers les bons interlocuteurs. Parce que il y a, là aussi, comme en matière juridique de façon plus large, il y a beaucoup de gens non spécialistes qui ont un avis sur beaucoup de choses, alors qu'il y a des institutions, des associations qui sont en capacité de donner la bonne réponse, finalement.
Et justement, comment, lors de cette journée, donc de demain, vous allez rendre cette discussion et ces sujets accessibles, compréhensibles, sachant que c'est très technique, effectivement?
Alors, on a fait un choix, bien sûr, des intervenants. Comme je le dis, ce travail, il vient après un premier travail, puisqu'on a publié un guide de l'environnement dans le département de la Vienne, hein, qui est accessible sur... en téléchargement libre sur notre site là, du CDAD de la Vienne, qui permet de répondre aux questions vraiment du quotidien. On a balayé des choses très simples. Hein. Je veux tailler une haie, est-ce qu'il y a une législation en cette matière? Si je ne sais pas vers qui je dois aller, j'ai une mare, est-ce que je peux faire ce que je veux avec ma mare? Enfin voilà, des choses très simples. Hein. Et on a listé un peu tous les responsables en cette matière. Dans la continuité finalement de ce travail, on a gardé finalement certains qui avaient l'habitude de travailler au quotidien avec les intervenants. Donc ce sera le cas notamment, par exemple, de France Nature Environnement, qui est une association qui intervient en cette matière, et on aura demain des juristes de France Nature Environnement. Mais c'est aussi le cas de l'OFB, qui est bien connu en matière pénale et qui doit pouvoir expliquer aussi quel est son rôle, hein, parce que souvent il est...
Le français de la biodiversité, qui a été pas mal attaqué ces derniers mois.
Mais aussi, effectivement, avec des gens un peu plus généralistes, à la fois un maître de conférence de la faculté ici, qui est spécialisé en droit de l'environnement, qui va peut-être expliquer les enjeux, justement, de façon plus générale, en cette matière. Et puis on a un magistrat du tribunal administratif qui viendra, et puis une avocate qui est aussi élue locale et qui expliquera justement peut-être de façon assez simple aussi ce à quoi est confronté un élu local et comment il peut y répondre.
Et alors, vous le disiez, ce sont des sujets qui sont très d'actualité dans notre département, notamment sur la question de l'eau, que ce soit sa pollution, que ce soit l'accès à l'eau et son partage. Est-ce que ce genre de journée est aussi là pour apaiser un petit peu ces tensions, en tout cas mettre un petit peu de la compréhension dans ces débats?
Alors, on n'a pas l'ambition de résoudre une problématique qui dépend d'ailleurs essentiellement et du préfet et des tribunaux administratifs, et pas des tribunaux judiciaires, d'ailleurs. Mais effectivement, il nous paraît important d'avoir une vraie réflexion commune, en tout cas, d'essayer de comprendre à quoi ça sert, en fait, et pourquoi des règles ont été posées. Après, on peut discuter, et je pense que les uns et les autres, évidemment, le feront hein, sur leur désaccord, mais au moins qu'il n'y a pas de mauvaise compréhension, parce que parfois, et souvent en matière juridique, beaucoup de gens surinterprètent en fait, hein, les dispositions. C'est notamment le cas des non-spécialistes, bien évidemment. Hein. Et donc, il est important de remettre à la fois du sens, d'expliquer les valeurs qui sont défendues, et d'expliquer les objectifs. Hein. Je reviens sur la question du guide du droit de l'environnement. On s'est aperçu qu'en réalité, on a réussi à mettre tout le monde autour de la table à un moment, simplement pour discuter de ce guide, et ça s'est plutôt bien passé, sans trop de difficultés. Par exemple, hein, entre les pêcheurs et les agriculteurs, on peut aussi retrouver des choses communes, puisque tout le monde a intérêt aussi à garder la nature en bon état, chacun pour son utilisation.
Alors, donc la journée, c'est demain de 14h à 17h à l'amphithéâtre de l'École des avocats. C'est boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny. Et si les personnes veulent s'informer sur le droit de façon plus générale, comment se passent les permanences du CDAD?
Alors, nous avons 13 points justice hein, sur le département. Nous avons mis en ligne sur le site internet du CDAD de la Vienne, donc tapez CDAD Vienne, hein. Il y a une carte interactive des permanences sur le département. Il y a aussi un système de prise de rendez-vous aussi qui peut se faire directement. Et ensuite, il y a aussi, on a édité il y a désormais 2 ans, un guide du droit, de l'accès au droit sur le département. Il est aussi sur le site et il recense toutes ces permanences et tous les numéros principaux et toutes les associations que nous considérons comme étant, on va dire, spécialisées en cette matière sur le département.
Donc, guide pour accéder au droit sur le département, guide sur le droit de l'environnement sur le département et journée d'accès au droit demain. Donc, c'est à partir de 14h à l'amphithéâtre de l'ECOA. Et c'est donc sur cette question des enjeux du droit de l'environnement et certains focus sur des acteurs du droit de l'environnement. Merci beaucoup d'être venu dans Séquence Midi, Cyril Bousseron. Je rappelle que vous êtes président du tribunal judiciaire et du conseil départemental de l'accès au droit de la Vienne. Merci bien.
Merci.
On se retrouve lundi pour Séquence Midi, mais tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. La CGT retraitée de la Vienne, depuis 2 ans, sillonne le département à la rencontre des retraités. Elle sera dans le Chauvinois, donc c'est aujourd'hui à 14h dans la salle de l'accueil sportif au complexe Le Peuron, rue de Peuron à Chauvigny. Ils débattront des revendications aussi, de quelle organisation ils ont besoin au niveau local. C'est ouvert à tous les retraités. La représentation de la Dame et de l'Amour dans les chansons courtoises de Guillaume IX d'Aquitaine. C'est un rendez-vous au Palais de Poitiers à 18h30. Une conférence de Cathy Bernard, maîtresse de conférence d'Occitan et médiéviste à l'université Bordeaux-Montaigne, sur le duc Guillaume d'Aquitaine, le 9e du nom, qui est le grand-père d'Aliénor et le premier troubadour connu. Grande soirée des accessifs, c'est à partir de 19h à la salle R2B à Vouneuil-sous-Biard. Théâtre, humour, danse, musique, pour une soirée parsemée de surprises, c'est pour tout le monde. Et donc il y aura, ça va clôturer le festival Les Accessifs. IAPERO, la fabrique du faux, c'est à 19h à l'espace Mendès-France de Poitiers avec Yanis Delmas, qui est maître de conférences en histoire des sciences et des techniques, enseignant en master information et communication à l'université de Poitiers. Et la participation de François Sabourin, qui est comédien, pour une expérimentation ludique humain IA. Et puis concert de Patrick Jean, c'est à Saint-Benoît à 20h30 à la salle de la Une, co-plateau chanson du temps qui passe au profit de la Maison des Familles. Sur Pulsar à 18h, c'est le Labo des Savoirs, à 19h, c'est Change Doers et à 20h, Metal Fury. Merci Papa Cortex et Solène pour la réalisation technique de cette émission. Le PocoFest, c'est ce soir à l'envers du Pocal. Il y aura notamment Léa Sichelski et son saxophone. On se quitte avec un petit aperçu. Bon après-midi.